Les livres audio permettent aux malvoyants et aux dyslexiques d'avoir accès à des œuvres littéraires. Les quatrièmes du collège Saint-François d'Assise ont créé un livre audio que je vous laisse découvrir avec eux. Bonne écoute et bonne détente.
Le passe-muraille
de Marcel Aimé.
Par la classe de 4ème 3.
Avec les voix de
Maxime,
Jassem,
Anthony,
Gaël,
Andrea,
Ryan,
Isaline,
Angeline,
Samir,
Louise,
Ulysse,
Victoire,
Maxime,
Éloane,
Manon,
Valentine,
Tony,
Sandro,
Marius,
Bérénice,
Léon,
Louis,
Élise,
Charles,
Gabin,
Miguel,
Pierre.
Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, un chapeau melon et il était employé au ministère de l'Enregistrement. Dutilleul venait d'entrer dans sa 43e année lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris dans le vestibule de son petit appartement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres et, le courant revenu, se trouva sur le palier du troisième étage. Comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir et, malgré les remontrances de sa raison, il se décida à rentrer chez lui comme il en était sorti, en passant à travers la muraille.
Cette étrange faculté semblait le contrarier un peu et il alla trouver un médecin du quartier pour lui exposer son cas. Le docteur découvrit la cause du mal.
C'est un durcissement hélicoïdal de la paroi strangulaire du corps thyroïde. Je vous prescris à raison de 2 cachets par an l'absorption de poudre de pyrète tétravalente, mélange de farine de riz et d'hormones de centaure, et vous conseille de prendre garde au surmenage.
Ayant absorbé un premier cachet, Dutilleul rangea le médicament dans un tiroir et n'y pensa plus. Quant au surmenage, son activité de fonctionnaire était réglée par des usages ne s'accommodant d'aucun excès. Et ses heures de loisirs, consacrées à la lecture du journal et à sa collection de timbres, ne l'obligeaient pas non plus à une dépense déraisonnable d'énergie. Au bout d'un an, il avait donc gardé intacte la faculté de passer à travers les murs, mais il ne l'utilisait jamais. Sinon, par inadvertance, étant peu curieux d'aventure et rétif aux entraînements de l'imagination. L'idée ne lui venait même pas de rentrer chez lui autrement que par la porte. Peut-être eût-il vieilli dans la paix de ses habitudes, si un événement extraordinaire n'était pas venu soudain bouleverser son existence.
Monsieur Mouron, son sous-chef de bureau, appelé à d'autres fonctions, fut remplacé par un certain Monsieur l'Écuyer, qui avait la parole brève et la moustache en brosse. Dès le premier jour, le nouveau sous-chef vit d'un très mauvais œil que Dutilleul porta un lorgnon à chaînette et une barbiche noire. Et il affecta de le traiter comme une vieille chose gênante et un peu malpropre. L'atmosphère du ministre de l'Enregistrement devenait pesante. Le matin, il se rendait à son travail avec appréhension. Et le soir, dans son lit, il lui arrivait bien souvent de méditer un quart d'heure entier avant de trouver le sommeil. Monsieur l'Écuyer reléguait Dutilleul dans un réduit à demi-obscur. Attenant à son bureau, on y accédait par une porte basse et étroite donnant sur le couloir et portant encore en lettres capitales l'inscription « Débarras ». Dutilleul avait accepté d'un cœur résigné cette humiliation sans précédent. Mais chez lui, en lisant dans son journal le récit de quelques sanglants faits divers, il se surprenait à rêver que Monsieur l'Écuyer était la victime. Un jour, le sous-chef fit irruption dans le réduit en brandissant une lettre et il se mit à beugler.
Recommencez-moi ce torchon, recommencez-moi cet innommable torchon qui déshonore mon service.
Dutilleul voulut protester, mais Monsieur l'Écuyer, la voix tonnante, le traita de
Cancrela routinier.
Et, avant de partir, froissant la lettre qu'il avait en main, la lui jeta au visage.
Dutilleul était modeste, mais fier
Demeuré seul dans son réduit, il fit un peu de température et, soudain, se sentit en proie à l'inspiration. Quittant son siège, il entra dans le mur qui séparait son bureau de celui du sous-chef. Mais il y entra avec prudence, de telle sorte que sa tête seule émergea de l'autre côté. Monsieur l'écuyer, assis à sa table de travail, entendit tousser dans son bureau. Levant les yeux, il découvrit avec un effarement indicible la tête de Dutilleul collée au mur à la façon d'un trophée de chasse. Ah, cette tête était vivante. À travers le lorgnon à chaînette, elle dardait sur lui un regard de haine et se mit à parler.
« Monsieur, vous êtes un voyou, un butor et un galopin !»
Béant d'horreur, monsieur l'écuyer ne pouvait détacher les yeux de cette apparition. Enfin, s'arrachant à son fauteuil, il bondit dans le couloir et courut jusqu'au réduit. Dutilleul, le porte-plume à la main, était installé à sa place habituelle, dans une attitude paisible et laborieuse. Le sous-chef le regarda longuement et, après avoir balbutié quelques paroles, regagna son bureau. À peine venait-il de se rasseoir que la tête réapparaissait sur la muraille.
« Monsieur, vous êtes un voyou, un butor et un galopin !»
Au cours de cette seule journée, la tête redoutée apparut 23 fois sur le mur et les jours suivants, à la même cadence. Dutilleul, qui avait acquis une certaine aisance à ce jeu, ne se contentait plus d'invectiver contre le sous-chef. Il proférait des menaces obscures, s'écriant par exemple d'une voix sépulcrale, ponctuée de rires vraiment démoniaques.
« Garou-garou, un poil de loup, il rôde, un frisson a décorné tous les hiboux !»
Le pauvre sous-chef devenait un peu plus pâle, un peu plus suffocant, et ses cheveux se tassaient bien droit sur sa tête. Il lui coulait dans le dos d'horribles sueurs d'agonie. Le premier jour, il maigrit d'une livre. La semaine qui suivit, outre qu'il se mit à fondre presque à vue d'œil, il prit l'habitude de manger le potage avec sa fourchette et de saluer militairement les gardiens de la paix. Au début de la deuxième semaine, une ambulance vint le prendre à son domicile et l'emmena dans une maison de santé. Dutilleul, délivré de la tyrannie de Monsieur l'écuyer, demeurait pourtant insatisfait. Quelque chose en lui réclamait un besoin nouveau, impérieux, qui n'était rien de moins que le besoin de passer à travers les murs. Il pouvait le faire aisément chez lui. Mais l'homme qui possède des dons brillants ne peut se satisfaire longtemps de les exercer sur un objet médiocre. Passer à travers les murs ne saurait d'ailleurs constituer une fin en soi. C'est le départ d'une aventure, qui appelle une suite, un développement et en somme une rétribution. Dutilleul le comprit très bien. Le premier cambriolage auquel il se livra eut lieu dans un grand établissement de crédit de la rive droite. Ayant traversé une douzaine de murs et de cloisons, il pénétra dans divers coffres-forts, emplit ses poches de billets de banque et, avant de se retirer, signa son larcin à la craie rouge, du pseudonyme de Garou-Garou. Au bout d'une semaine, ce nom de Garou-Garou connut une extraordinaire célébrité. La sympathie du public allait sans réserve à ce prestigieux cambrioleur qui narguait si joliment la police.
Après le vol du fameux diamant de Burdigala et le cambriolage du crédit municipal qui eurent lieu la même semaine, l'enthousiasme de la foule atteignit au délire. Le ministre de l'Intérieur dut démissionner, entraînant dans sa chute le ministre de l'Enregistrement. Cependant, Dutilleul, devenu l'un des hommes les plus riches de Paris, était toujours ponctuel à son bureau et on parlait de lui pour les palmes académiques. Le matin, au ministère de l'Enregistrement, son plaisir était d'écouter les commentaires que faisaient les collègues sur ses exploits de la veille.
Oui, Garou-Garou est un homme formidable.
Ce Garou-Garou est un homme formidable.
Formidable.
En entendant de tels éloges, Dutilleul devenait rouge de confusion et derrière le lorgnon à chaînette, son regard brillait d'amitié et de gratitude. Un jour, cette atmosphère de sympathie le mit tellement en confiance qu'il ne put garder le secret plus longtemps. Avec un reste de timidité, il considéra ses collègues groupés autour d'un journal relatant le cambriolage de la Banque de France et déclara d'une voix modeste.
Vous savez, Garou-Garou, c'est moi.
Un rire énorme et interminable accueillit la confidence de Dutilleul qui reçut par dérision le surnom de Garou-Garou.
Le soir, à l'heure de quitter le ministère, il était l'objet de plaisanteries sans fin de la part de ses camarades et la vie lui semblait moins belle. Quelques jours plus tard, Garou-Garou se faisait pincer dans une bijouterie de la rue de la Paix. Il lui eût été facile de s'enfoncer dans un mur et d'échapper ainsi à la police, mais tout porte à croire qu'il voulait être arrêté et probablement à seule fin de confondre ses collègues. Ceux-ci, en effet, furent bien surpris lorsque les journaux du lendemain publièrent en première page la photographie de Dutilleul. Ils regrettèrent amèrement d'avoir méconnu leur génial camarade et lui rendirent hommage en se laissant pousser une petite barbiche.
En se laissant prendre par la police, pour et en renonçant à la liberté, Dutilleul glissait simplement sur la pente de sa destinée. Pour un homme qui passe à travers les murs, il n'y a point de carrière un peu poussée s'il n'a tâté au moins une fois la prison. Lorsque Dutilleul pénétra dans les locaux de la santé, il eut l'impression d'être gâté par le sol. L'épaisseur des murs était pour lui un véritable régal. Le lendemain même de son incarcération, les gardiens découvrirent avec stupeur que le prisonnier avait planté un clou dans le mur de sa cellule et qu'il y avait accroché une montre en or appartenant au directeur de la prison. Il ne put ou ne voulut révéler comment cet objet était entré en sa possession. La montre fut rendue à son propriétaire et, le lendemain, retrouvée au chevet de Garou-Garou. Le personnel de la santé était sur les dents. Les gardiens se plaignaient en outre de recevoir des coups de pied dans le derrière, dont la provenance était inexplicable. Il semblait que les murs eussent, non plus des oreilles, mais des pieds. La détention de Garou-Garou durait depuis une semaine, lorsque le directeur de la santé, en pénétrant un matin dans son bureau, trouva sur la table la lettre suivante.
Monsieur le directeur, je compte m'évader cette nuit entre 11h25 et 11h35. Je vous prie, monsieur le directeur, d'agréer l'expression de mon profond respect, Garou-Garou.
Malgré l'étroite surveillance dont il fut l'objet de cette nuit-là, Dutilleul s'évada à 11h30. La nouvelle souleva partout un enthousiasme magnifique. Cependant, ayant effectué un nouveau cambriolage qui mit le comble à sa popularité, Dutilleul semblait peu soucieux de se cacher et circulait à travers Montmartre, sans aucune précaution. 3 jours après son évasion, il fut arrêté rue Caulaincourt au Café du Rêve, alors qu'il buvait un vin blanc citron avec des amis. Outré, le directeur établit un poste de garde à la porte de son cachot et le mit au pain sec. Vers midi, le prisonnier s'en fut déjeuner dans un restaurant voisin de la prison.
Le directeur accourut en personne et s'emporta jusqu'à proférer des menaces et des injures. Atteint dans sa fierté, Dutilleul s'évada la nuit suivante et pour ne plus revenir. Cette fois, il prit la précaution de raser sa barbiche noire et remplaça son lorgnon à chaînette par des lunettes en écaille. Le bruit de sa renommée commençait à le lasser et il était un peu blasé sur le plaisir de passer à travers les murs. Les plus épais, les plus orgueilleux lui semblaient maintenant de simples paravents. Et il rêvait de s'enfoncer au cœur de quelques massives pyramides. Tout en mûrissant le projet d'un voyage en Égypte, il menait une vie des plus paisibles. Partagé entre sa collection de timbres, le cinéma et de longues flâneries à travers Montmartre. Sa métamorphose était si complète qu'il passait à côté de ses meilleurs amis sans être reconnu. Seul le peintre Jean-Paul, à qui rien ne saurait échapper d'un changement survenu dans la physionomie d'un vieil habitant du quartier, avait fini par pénétrer sa véritable identité. Un matin, qu'il se trouva nez à nez avec Dutilleul, il ne put s'empêcher de lui dire dans son rude argot
« Dis donc, je vois que tu t'es miché en gigolpince pour t'étarer ceux de la surpige. »
Ce qui signifie, à peu près en langage vulgaire, « Je vois que tu t'es déguisé en élégant pour confondre les inspecteurs de la police. »
« Ah, tu m'as reconnu. »
Il en fut troublé et décida de hâter son départ pour l'Égypte.
Ce fut l'après-midi de ce même jour qu'il devint amoureux d'une beauté blonde, rencontrée 2 fois rue Lepic à 4 heures d'intervalle. Il en oublia aussitôt sa collection de timbres et l'Égypte et les pyramides. De son côté, la blonde l'avait regardé avec beaucoup d'intérêt. Malheureusement, la belle Dutilleul en fut informée par Jean-Paul. Était mariée à un homme brutal et jaloux. Ce mari soupçonneux délaissait régulièrement sa femme entre 10h du soir et 4h du matin. Mais avant de sortir, prenait la précaution de la boucler dans sa chambre. À deux tours de clé, toute persienne fermée au cadenas. Croisant la jeune femme rue Tolosée, Dutilleul osa la suivre dans une crèmerie et, tandis qu'elle attendait son tour d'être servie, il lui dit qu'il l'aimait respectueusement, qu'il savait tout, le mari méchant, la porte à clé et les persiennes, mais qu'il savait le soir même dans sa chambre. La blonde rougit, son pot à lait trembla dans sa main et, les yeux mouillés de tendresse, elle soupira faiblement.
« Hélas, monsieur, c'est impossible. »
Le soir de ce jour radieux, vers 10h, Dutilleul attendit de voir le mari disparaître au loin et compta encore jusqu'à 10. Alors, il s'élança, entra dans le mur aux pas gymnastiques et pénétra dans la chambre de la belle recluse. Elle l'accueillit avec ivresse et ils s'aimèrent jusqu'à une heure avancée. Le lendemain, Dutilleul eut la contrariété de souffrir de violents maux de tête. La chose était sans importance et il n'allait pas pour si peu manquer son rendez-vous. Néanmoins, ayant par hasard découvert des cachets éparses au fond d'un tiroir, il en avala un le matin et un l'après-midi. Le soir, ses douleurs de tête étaient supportables et l'exaltation lui fit oublier. La jeune femme l'attendait avec toute l'impatience qu'avait fait naître en elle les souvenirs de la veille et ils s'aimèrent, cette nuit-là, jusqu'à 3h du matin. Lorsqu'il s'en alla, Dutilleul, en traversant les cloisons des murs de la maison, eut l'impression d'un frottement aux hanches et aux épaules. Toutefois, il ne crut pas devoir y prêter attention. Ce ne fut d'ailleurs qu'en pénétrant dans le mur de la clôture qu'il éprouva nettement la sensation d'une résistance. Il lui semblait se mouvoir dans une matière encore fluide, mais qui devenait pâteuse et prenait à chacun de ses efforts plus de consistance. Ayant réussi à se loger tout entier dans l'épaisseur du mur, il s'aperçut qu'il n'avançait plus et se souvint avec terreur des deux cachets qu'il avait pris durant la journée.
Ces cachets qu'il avait cru d'aspirine contenaient en réalité de la poudre de pyrète tétravalente prescrite par le docteur l'année précédente. L'effet de cette médication s'ajoutant à celui d'un surmenage intensif se manifestait d'une façon soudaine. Dutilleul était comme figé à l'intérieur de la muraille. Il y est encore à présent incorporé à la pierre. Les noctambules qui descendent de la rue Norva à l'heure où la rumeur de Paris s'est apaisée entendent une voix assourdie qui semble venir d'outre-tombe et qu'ils prennent pour la plainte du vent sifflant au carrefour de la butte. C'est Garou-Garou Dutilleul qui lamente la fin de sa glorieuse carrière et le regret des amours trop brèves. Certaines nuits d'hiver, il arrive que le peintre Jean-Paul, décrochant sa guitare, s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvin pour consoler d'une chanson le pauvre prisonnier. Et les notes envolées de ses doigts engourdis pénètrent au cœur de la pierre comme des gouttes de clair de lune.
Ce livre audio du Passe-Muraille de Marcel Aimé vous a été proposé par les 4e 3 du Collège Saint-François d'Assise. Vous pouvez réécouter l'histoire en vous rendant sur notre site internet, c'est sur inforc.fr.